Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI. Il est pile 9h, temps universel, 11h. Ici à Paris, bonjour.
Charlotte Hydrac.
Inutile de poursuivre la tuerie, ne serait-ce qu'une seule journée. Le président ukrainien dit attendre de la Russie le respect d'un cessez-le-feu à partir de demain. Cet appel lancé par Kiev et ses alliés, Vladimir Poutine l'a ignoré. Il propose à la place des négociations directes avec l'Ukraine dès jeudi prochain à Istanbul. À suivre aussi le fragile cessez-le-feu annoncé entre l'Inde et le Pakistan. Ça tient malgré des incidents nocturnes à la frontière. Des élections législatives en cours en Albanie, scrutin test pour son avenir européen. La première prière dominicale du nouveau pape Léon XIV, ce sera dans une heure à la basilique Saint-Pierre. Et puis une série Netflix apocalyptique qui relance la recherche des bébés volés pendant la dictature en Argentine. Le président Zelensky a donc réagi il y a environ une heure à la contre-proposition de Vladimir Poutine. Il dit qu'il y souhaitait des négociations directes avec l'Ukraine à partir du 15 mai en Turquie. Kiev se dit prêt à rencontrer la partie russe. Pour le chef de l'État ukrainien, les Russes commencent à envisager la fin de la guerre. C'est un bon signe. Mais le président Zelensky appelle d'abord au respect d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours dès lundi. Emmanuel Chaz.
Face aux déclarations du président russe, l'Ukraine et ses alliés proposent à Moscou un cessez-le-feu total et inconditionnel de 30 jours dès lundi, car cet arrêt des combats devrait être un préalable à toute discussion vers une paix durable, alors que Vladimir Poutine n'y a pas fait allusion dans son allocution. Il propose à la place des discussions directes avec l'Ukraine, mais tout en continuant à la bombarder. D'ailleurs, des explosions ont retenti suite à une attaque de drones cette nuit contre la capitale ukrainienne. Pour le président français Emmanuel Macron, la contre-proposition de Poutine n'est pas acceptable pour Kiev et montre que Moscou tente toujours d'imposer ses conditions, ce qui par essence contredit l'idée d'un cessez-le-feu inconditionnel. Côté américain, Donald Trump pense qu'aujourd'hui peut potentiellement être un grand jour pour la Russie et l'Ukraine, même si Washington était à l'origine de cette proposition de cessez-le-feu de 30 jours dès mars dernier. Le président américain croit en une résolution rapide de l'agression russe, alors que son ambassade à Kiev a averti qu'une attaque aérienne de grande ampleur de Moscou contre l'Ukraine semblait en préparation, en contradiction totale à toute velléité supposée de conciliation côté russe. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et selon Kiev, la Russie a lancé plus de 100 drones contre l'Ukraine depuis la fin de la trêve unilatérale décrétée par Moscou cette semaine entre le 8 et le 10 mai. Le cessez-le-feu très fragile annoncé entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays se disent engagés à le faire respecter. Les armes se sont tues ce dimanche malgré des échanges de tirs intermittents signalés à la frontière dans la nuit. Les deux pays se sont rejetés la responsabilité. Le président américain, en tout cas, se dit très fier, je cite, de la cessation des hostilités annoncée entre New Delhi et Islamabad. Et Donald Trump s'engage dans le même temps à augmenter de manière importante le commerce entre les États-Unis et l'Inde et le Pakistan. Les États-Unis qui reprennent leur pourparlers ce dimanche sur le dossier nucléaire iranien. Nouveau cycle de discussions à Oman entre les deux ennemis. Le chef de la diplomatie iranienne dit espérer parvenir à un moment décisif. Il affirme aussi que le droit de Téhéran à l'enrichissement d'uranium est non négociable. Israël parle d'une opération spéciale, opération complexe et clandestine qui a permis, selon l'État hébreu, de rapatrier le corps d'un soldat israélien tué pendant la première guerre du Liban en 1982. L'armée israélienne précise que le corps a été retrouvé au cœur de la Syrie. RFI 11h04 à Tirana, en Albanie, où le vote est en cours pour les législatives, scrutin test pour l'avenir européen de ce petit pays sur la côte adriatique. Avec d'un côté le Premier ministre socialiste Edi Rama qui espère rempiler pour un quatrième mandat et de l'autre l'ancien dirigeant Salih Berisha qui a bien l'intention de revenir au pouvoir, Daniel Valot.
Un passeport européen d'ici à 2030, c'est avec cette promesse de campagne qu'Edi Rama espère convaincre les électeurs albanais de lui confier un quatrième mandat consécutif. Âgé de 60 ans, au pouvoir sans discontinuer depuis 2013, le candidat du Parti Socialiste se présente comme la meilleure garantie pour l'Albanie d'entrer dans l'Union européenne, sachant que le pays est candidat à l'adhésion depuis la fin des années 2000. Les derniers sondages lui sont plutôt favorables, mais Edi Rama fait face pour ces élections un adversaire de taille, l'ancien président albanais Sali Berisha, qui a pris la tête de l'opposition avec un programme basé sur la relance de l'économie et les baisses d'impôts. Âgé de 80 ans, l'homme qui symbolise la chute du communisme en Albanie s'est juré de revenir aux affaires en calquant sa campagne sur celle de Donald Trump aux États-Unis. Le candidat de l'opposition s'est d'ailleurs assuré les services de Chris Lacivita, l'un des conseillers du milliardaire américain, lors des élections américaines de 2024.
Du monde attendu, place Saint-Pierre à Rome pour la première prière dominicale de Léon XIV. Le nouveau pape la récitera d'ici une petite heure. Depuis le balcon de la basilique, ce sera sa seconde apparition publique en tant que chef de l'Église catholique. Cette prière, elle sera suivie par des fidèles du monde entier. Léon XIV a déjà donné quelques pistes sur sa ligne devant les cardinaux en insistant sur la question sociale de l'Église. Et hasard du calendrier, sa nomination a coïncidé avec l'Assemblée Générale des Conférences Épiscopales d'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue toute la semaine à Dakar, au Sénégal, avec 16 pays représentés. L'occasion d'échanger sur les attentes vis-à-vis du Vatican. Correspondance à Dakar, Gwendal Lavina.
Le thème pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix donnait des indices. Et effectivement, la question de l'autonomie est longuement évoquée par Mgr Twabli Yulo, le président des conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest.
D'abord, autonomie spirituelle, pensée par nous-mêmes, bien sûr, dans une stricte fidélité à l'enseignement de l'église. Autonomie culturelle, célébrer la foi commune de l'église à partir de nos cultures locales. Car nous célébrons Dieu avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons.
Les participants demandent également plus d'autonomie financière, des aspirations en phase avec les directions données par le Vatican ces dernières années. Pour la conférence, les églises ouest-africaines doivent aussi être des moteurs pour la paix dans une zone en proie au terrorisme.
Nous voulons apporter notre contribution et aucun de nos pays d'Afrique n'est à l'abri. Donc ça doit nous préoccuper tous. Donc la paix, mais pas n'importe quelle paix. Une paix basée, fondée sur la justice.
Les 148 participants appellent enfin au renforcement du dialogue entre les différentes communautés religieuses ou sociales avec comme seul objectif l'amélioration de la vie des populations. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Une pluie d'hommages après l'annonce du décès de Koyo Kwom, curatrice suisso-camerounaise, figure incontournable de la scène artistique africaine. Elle s'est éteinte à Bâle, elle avait 58 ans, longtemps installée au Sénégal. Elle était à la tête du plus grand musée d'art contemporain d'Afrique, le Seyd Moka. Au Cap, en Afrique du Sud. Elle était également la première femme africaine désignée pour diriger la Biennale de Venise l'an prochain. En Argentine, une série Netflix à succès relance la recherche des bébés volés pendant la dictature. Depuis le lancement de la série L'Éternaute le 30 avril, le nombre de personnes qui contactent les grands-mères de la place de Mai explose. Cette série, inspirée d'une bande dessinée de science-fiction, histoire apocalyptique d'invasion extraterrestre à Buenos Aires, et qui remet donc en lumière les milliers de disparus entre 1976 et 1983, Théo Conscience.
Et si l'un des millions d'Argentins à avoir regardé la série L'Éternaute était, sans le savoir, le petit-fils ou la petite-fille de l'auteur de cette BD culte des années 50 adaptée par Netflix. Hector Westerheld, militant de gauche, a été séquestré et assassiné par la dictature civilo-militaire argentine à la fin des années 70, tout comme ses quatre filles. Deux d'entre elles, Diana et Marina, étaient enceintes au moment de leur enlèvement. Leurs enfants font partie des quelques 500 bébés volés pendant la dictature. Le jour de la sortie de la série adaptée de l'œuvre de Westerheld, les grands-mères de la place de Mai ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Tu regardes l'Éternaute, tu es né entre novembre 1976 et janvier 1978 et tu as un doute sur ton identité, prends contact avec nous. Et le succès de la série, qui caracole en tête des contenus non anglophones les plus visionnés sur Netflix, a fait le reste. Entre le 30 avril et le 7 mai, plus de 100 personnes ont contacté les grands-mères de la place de Mai, 6 fois plus que l'an dernier à la même époque. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Dans l'actualité sportive, c'est un classique mais décisif en Espagne. Quatrième de la saison entre le FC Barcelone, leader de la Liga, et son dauphin, le Real Madrid. Dernière chance pour l'équipe de Kylian Mbappé de sauver une saison assez fade. Rendez-vous tout à l'heure, 16h15, 14h15, TU. Pour l'heure, on vous emmène en voyage dans Grand Reportage. À tout à l'heure.